Théologie naturelle par le Père Philippe, à Saint-Joseph, le 23 janvier 85.
Nous étions arrivés à ce jugement de sagesse dans la lumière de l'être infini. Dieu est infini dans son être. Sa manière d'exister, c'est d'être infini. Et saint Thomas, pour bien montrer cela, nous fait cette petite distinction entre l'infini dans l'ordre quantitatif, c'est un infini de privation, et l'infini de négation dans l'ordre de la forme. Vous voyez, je crois qu'on peut faire ce point de vue-là. C'est un aspect très important. Le problème de l'infini est un problème très délicat, très intéressant. Il pourrait être le leitmotiv de toute la philosophie. On pourrait faire une topique à travers toute la philosophie, je crois, de l'Occident comme de l'Orient, sur le problème de l'infini. Parce que c'est une nostalgie dominante de toute notre vie intellectuelle et spirituelle. C'est un leitmotiv, si vous voulez, à la manière d'Augustin. Un leitmotiv sur lequel nous revenons tout le temps. Et c'est pour ça que c'est si important, c'est si intéressant. Ça fait comprendre tout l'ontologisme. Au point de vue religieux, au point de vue intellectuel, tout le panthéisme, c'est le problème de l'infini, on se heurte. Or, saint Thomas se situe, c'est toujours intéressant de voir ça, saint Thomas se situe dans le problème de l'infini par rapport à Dieu, à un moment très très important. C'est ça le génie de saint Thomas, du reste. Là, on le saisit, à quelques points comme ça, on saisit bien le génie de saint Thomas. Je vous l'avais dit à propos du bien par rapport à Aristote. Eh bien, l'infini, c'est par rapport à toute la philosophie présocratique, c'est même par rapport à Aristote aussi. La notion d'infini chez saint Thomas est très différente que celle d'Aristote. Il y a une notion théologique de l'infini, ou théologale de l'infini, c'est plus juste, une notion théologale de l'infini que vous ne trouvez pas chez Aristote. Aristote reste avec la notion d'infini telle que les présocratiques l'ont donnée. Tandis que saint Thomas va dépasser cela. Et saint Thomas, je crois, je dis je crois parce que c'est toujours très difficile de faire ces enquêtes historiques, se dire qu'elles sont exhaustives. On ne sait jamais, il peut y avoir un petit lapin qui s'est bien caché et qu'on n'a pas vu, n'est-ce pas? Alors je crois que saint Thomas est le premier à avoir regardé l'infini comme une manière d'exister de Dieu. Autrement dit, saint Thomas est le premier qui a montré le problème de l'infini lié à l'être, lié au bien, directement. Avant saint Thomas, et dans le texte de l'Écriture, nous voyons toujours que Dieu est infiniment bon, que Dieu est infiniment sage, que Dieu est tout-puissant. Donc l'infini touche le mystère de Dieu, non pas par le point de vue de l'être, mais touche le mystère de Dieu par le point de vue de sa science, de sa toute-puissance, de, et ainsi de suite. Même de sa bonté, on pourrait dire. Saint Thomas le traiterait autrement, mais ton bonté ici. Tu es infiniment bon, infiniment miséricordieux. Pas de limite à la bonté de Dieu. Voyez, alors c'est ça le passage qui me semble si important, où saint Thomas regarde le point de vue de l'infini comme une manière d'exister. C'est très audacieux. Terriblement audacieux, pour ça. Alors que les autres regardent l'infini du côté de l'opération. Très important pour toute la question de la féminologie, ça. allez voir. Alors, après Saint Thomas, la fille va définir ce qu'est Dieu. Et première position, deuxième position, troisième position. C'est très clair. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Parce que c'est important de saisir ça. C'est un tournant au point de vue de la pensée. Et là, c'est un tournant au point de vue de la pensée qui s'est pris du côté théologique. Et les tournants, quand ils pointent du côté théologique, ça a tout de suite une vision, une importance très grande. Vous voyez ? Alors, je dis bien, avant Saint Thomas, avant, on dit pré-socratique, post-socratique, avant Socrate, après Socrate. Saint Thomas joue un rôle analogue au niveau théologique. Avant Saint Thomas, après Saint Thomas. On peut le dire pour certains problèmes, pas pour tous les problèmes, pour la vision béatifique, on peut le dire. Saint Thomas a modifié très nettement la théologie de la vision béatifique avant Saint Thomas et après Saint Thomas. C'est toujours intéressant de voir ça, parce que saint Thomas accumule des quantités de matériaux qui ont été dit avant lui. Ce qui est intéressant, ce serait très intéressant de voir tous les points d'originalité de saint Thomas. Et les points où saint Thomas tout simplement reprend, accumule. On est tous comme ça. On accumule un patrimoine. Et puis, quand on a bien assimilé un patrimoine, il y a un point sur lequel on donne une nouvelle lumière. Et tout le patrimoine est illuminé à ce moment-là. Il est repris d'une autre manière. Bien, c'est un des points. Je crois bien. Je dis je crois bien parce que ça n'a pas été affirmé. Alors, et que l'enquête historique, c'est toujours, toujours chanceux. Alors, je crois bien qu'avant saint Thomas, l'infini qualifie la science, la toute-puissance, la bonté, la miséricorde. Et cet infini veut dire tout simplement illimité. Il a une science illimitée, justement. Regardez dans Job. Et dans l'écriture sainte, c'est comme ça qu'est présenté l'infini. Regardez comment est présenté l'infini dans l'écriture sainte. C'est toujours pour qualifier une des perfections de Dieu. Donc l'infini qualifie une des perfections de Dieu. C'est un infini pris du côté de l'extension, si vous voulez. Le regard infini de Dieu. Enfin oui, il regarde tout. Pas de limite à son regard. Il regarde tout. Il est tout puissant. Pas de limite à sa toute puissance. Avec Saint Thomas, l'infini va qualifier l'être. Vous voyez le passage ? L'infini va qualifier l'être. Et on dira que Dieu est infini dans son être. Et après saint Thomas, l'infini va remplacer l'être. Ça mange tout l'infini. C'est extraordinaire ça. Et très vite, Don Scott. Pour Don Scott, l'infini détermine ce qu'est Dieu. Et avec Don Scott, vous avez après Descartes. Descartes regarde l'infini comme un des aspects les plus importants dans le mystère de Dieu. La liberté et l'infini. Alors vous avez l'alliance entre liberté et infini chez Descartes. Une fois que vous comprenez l'alliance de l'infini et de la liberté, vous comprenez tout Descartes. C'est très curieux. Parce que Descartes, il faut le comprendre par le sommet, hein, comme toujours. Pour comprendre par rapport à l'homme et Dieu. Parce que c'est le point de départ d'un système d'ontologisme. Alors l'idée d'infini, l'idée et la liberté, c'est les deux choses qui définissent. Ce serait intéressant du reste. La liberté à l'infini, vous voyez. Liberté aux qualités, liberté à l'être, et liberté à l'infini par rapport à la perfection, l'infini par rapport à l'être, et l'infini par rapport à la liberté. Et vous avez là trois moments tout à fait différent sur la liberté, sur le point de vue de l'infini, sur le problème de l'infini. Alors, je précise encore, pour saint Thomas, je peux dire que Dieu est infini dans son être à cause de sa simplicité. L'être de Dieu est absolument simple. Et parce que l'être de Dieu est absolument simple, il est infini. Le métaxu, qui me permet d'unir l'être et l'infini, c'est la simplicité. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit de Don Scott, ça suit un homme, hein, vous voyez bien, c'est le franciscain, Don Scott, franciscain anglais, qui a une espèce de vision très particulière, très spéciale. Alors, Don Scott, lui, regarde l'infini en lui-même, pas à travers la simplicité, c'est immédiat. Tandis que saint Thomas définit. Alors vous voyez, ça n'a l'air de rien ce que je souligne là, mais si vous affirmez l'infini comme manière d'exister à partir de la simplicité, vous maintenez la détermination. Dieu est absolument déterminé. Et dans sa détermination, il est infini. Tandis que si vous affirmez l'infini en premier lieu, vous avez l'indétermination absolue. Et vous avez donc cette espèce d'océan dans lequel vous plongez, c'est l'abîme. Vous ne pouvez plus rien dire, hein, c'est l'infini. Alors ça, c'est important. C'est important de souligner ça. Et alors, je crois que après Descartes, vous avez Hegel. La pièce maîtresse de l'hegelianisme, c'est l'infini. Alors, ce serait intéressant de savoir que si la dialectique, peut ne vivre que grâce au fond de l'infini, qui fait, par le fait même, l'indétermination fondamentale entre l'être et le devenir, entre les opérations, la vie et l'être. Vous noyez tout dans l'infini. Et tout est noyé dans l'infini. Et ça, de Descartes à Hegel, c'est l'infini. C'est pour ça que ça joue un rôle si important. Puisque à partir de Hegel, le point de vue de l'infini va de fait donner naissance à tous les athéismes. Tout l'ontologisme naît à partir de l'infini et tous les athéismes naissent dans le problème de redécouvrir l'homme dans son infini, Feuerbach. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, c'est un problème qui est très très intéressant au point de vue philosophique. Si vous le regardez par les sommets, moi c'est toujours un problème qui m'a passionné, ce problème de l'infini. Parce que je crois que c'est passionnant de saisir, vous voyez, les crêtes, de saisir la clé de l'ontologisme et de saisir la clé par le fait même de l'athéisme, au point de vue philosophique, pour pouvoir y répondre. Hein. Toujours la même chose, il faut essayer de saisir les choses par leur sommet. Si vous les saisissez par le petit bout, vous ne répondez pas. Mais si vous saisissez par le sommet, vous saisissez ça, c'est l'infini qui a absorbé l'être. Moi, je crois qu'on peut dire ça. Et une fois que l'infini a absorbé l'être, vous pouvez à ce moment-là faire toutes les confusions possibles, vous êtes dans l'infini. L'infini ne permet pas de distinguer, mais permet d'opposer. Alors vous avez l'opposition qui supprime la distinction. Pour distinguer, il faut être déterminé. C'est en étant déterminé que vous pouvez distinguer. Si vous n'avez plus de détermination, vous opposez. C'est la rivalité. Alors c'est la rivalité entre le fini et l'infini. Et ça va très loin ça, parce que psychologiquement c'est très important de comprendre ça. Vous voyez, de comprendre que le manque de détermination vous conduit à opposer. Quand vous êtes indéterminé, instinctivement vous opposez fini et infini. Et la dialectique naît de cette opposition. La dialectique, c'est la mort de toutes les distinctions, donc de toutes les qualités. ça que Mono peut dire la vie, parce que la vie est qualitative, la vie n'est pas dialectique. Ça, c'est une parole importante que Mono a dit. C'est la petite, vous voyez, petite paillette d'or au milieu de beaucoup d'erreurs. Mais il a découvert ça. Il y a toujours une petite paillette d'or. Hein. Et c'est d'autant plus intéressant de saisir le lys qui pousse sur le fumier. Alors c'est important de saisir ça, de saisir ce qu'il y a de beau, de merveilleux, au milieu d'un tas de fatras, de choses qui sont complètement erronées. Mais il y a quelque chose. C'est l'intelligence qui existe toujours. Hein. L'intelligence n'est pas supprimée par le péché. Et donc l'intelligence demeure chez l'athée. Et les athées sont intelligents. Il n'y a pas qu'eux, heureusement, hein. Mais ils sont intelligents, ils demeurent intelligents, tout en étant athées. Parce que, alors que leur cœur est sans doute corrompu, mais ils demeurent intelligents. Il y a quelque chose. Alors il faut découvrir la petite paillette d'or. Dans chaque athéisme, il faut découvrir la petite paillette d'or qui existe. Parce que cette petite paillette d'or, on doit la prendre. Hein. On doit pouvoir l'assumer pour saisir par où on peut pénétrer dans la citadelle. Alors, ça c'est pour vous rappeler que le problème de l'infini est quelque chose de très très important pour nous. Dieu est infini dans son être. Toute créature est là. Et finie dans son être. Et c'est très facile de comprendre cela. Si saint Thomas peut dire que Dieu est infini dans son être, c'est parce que justement, il a fait la distinction entre l'infini privatif et l'infini de pure négation. L'infini comme tel est au-delà de la distinction du parfait et de l'imparfait. Donc quand vous dites d'une réalité qu'elle est infinie, vous ne dites pas si elle est parfaite ou imparfaite. C'est au-delà. Parce que l'infini négatif, hein, pas l'infini privatif. L'infini privatif, comme le nom l'indique, il manque de limites. La quantité infinie manque de détermination. Ça coule. Divisible comme tel, manque de détermination. Il manque de limites. C'est un full camp. Ça manque de limites. Quelque chose qui manque de limites. Ça manque de détermination aussi. Alors, il faut bien saisir que si saint Thomas n'avait saisi l'infini qu'au niveau quantitatif, il ne pourrait pas l'attribuer à Dieu. S'il n'avait saisi l'infini qu'au niveau privatif, il ne pourrait pas l'attribuer à Dieu. Il faut arriver à une conception de l'infini qualitative, si j'ose dire, à partir de la qualité, à partir de la forme. Une forme non reçue. Donc, une forme en soi non reçue est infinie. C'est la forme en tant que reçue qui est limitée. Or, l'essai de Dieu n'est pas reçu, donc il est infini. L'essai de toute créature est reçu, un essai participé. Et nous retrouvons tout. Laisser participer, parce qu'il est participé, il est reçu. Il est reçu dans les sens. Mais parce qu'il est reçu dans les sens, il est limité. Toute forme reçue est limitée par le récipient qui le reçoit. C'est bien évident, un exemple très simple. Hein. J'ai cherché de l'eau à la source, l'eau est limitée par le récipient. Et la source est limitée par le canal. Canaliser, c'est ça, c'est limité. On limite pour dominer. Tandis que l'essai non reçu est illimité. Il est infini. L'essai reçu est limité. Or, nous avons vu que dans toute créature et dans l'homme, distinction réelle entre l'essence et l'essai. Et que dans toute créature, l'essai est participé, donc il est reçu. Si l'essai est participé, il est limité. Toute créature est fondamentalement limitée dans son exister. Donc son essai. C'est très important. Le monde est limité dans son essai. Jugement de sagesse. Et si le monde est limité dans son essai, il a donc une figure que je ne vois pas, parce que je suis dedans. Je suis dans les cavernes. Comment voulez-vous voir la figure? Je vois que le toit, c'est-à-dire ce que seul je touche, mais je ne sais pas s'il y a d'autres choses. Il faudrait pouvoir regarder. Vous voyez, comme on regarde la Terre de la Lune, il faudrait regarder le monde, tout l'univers, dans la lumière de Dieu. Dans la lumière de Dieu, toutes les créatures sont limitées. Elles sont mesurées par Dieu. Elles sont mesurées par la sagesse de Dieu. Elles sont limitées. Si l'univers, dans toute sa totalité, est mesuré par Dieu, il a donc une figure, il a donc nécessairement un centre, un axe. Je ne sais pas lequel. Je précise simplement, il est limité. Et l'homme, dans son existence, est limité. Il est limité dans son existence. Son essai participé est reçu. Il y a donc en lui une possibilité de découvrir, en quelque sorte, comme on avait dit à propos de l'essai participé et de l'essence, les fêlures métaphysiques. Ce que Kierkegaard appelle les fêlures métaphysiques, c'est très beau. C'est un peu métaphorique, mais c'est juste. Parce qu'on a un essai limité. Cet essai limité a cependant en lui certaines ouvertures vers l'infini, qui ne sont plus dans l'ordre de son être, qui sont de l'ordre de l'opération et de la vie. Alors c'est ça qui est très curieux. Si l'essai participé est nécessairement limité, est-ce que la vie est nécessairement participée et limitée? Là, c'est un très bon problème. La différence entre l'essai et la vie. Surtout si cette vie est esprit. La vie est limitée dans sa substance. Puisque la vie implique substance et opération. Donc la vie est nécessairement limitée dans sa substance. Comme tout être créé. Vie d'une créature, mais la vie dans ses opérations peut impliquer une ouverture vers l'infini. C'est les opérations spirituelles. Il y a en nous quelque chose d'infini. Ce quelque chose d'infini, il est dans les opérations spirituelles. Les opérations spirituelles d'intelligence et de volonté ont quelque chose d'infini. Vous voyez, vous expliquez les nostalgies qui sont en nous. Les nostalgies du côté de l'intelligence, les nostalgies du côté de l'amour proviennent de ça. Il n'y aurait pas de nostalgie si on était limité dans nos opérations spirituelles. Mais puisque nos opérations spirituelles ont quelque chose d'illimité, alors il peut y avoir des nostalgies, parce que je n'atteins jamais le terme. Et plus mes opérations intellectuelles se développent, plus je sens que c'est ouvert à l'infini. J'atteindrai jamais la limite de mon intelligence. J'atteindrai jamais la limite de ma volonté, de ma capacité d'aimer. Et c'est pour ça que je demeurerai toujours dans certaines nostalgies. Parce que je pourrais toujours aller plus loin. Alors la nostalgie, c'est justement de vouloir aller toujours plus loin. De jamais s'arrêter. Stop. Non, il n'y a pas de stop dans la vie de l'intelligence. C'est pour ça qu'on a toujours envie de les brûler. Parce que c'est pour ça que... Parce qu'il n'y en a pas du côté de l'intelligence et du côté de la volonté. Ça n'existe pas. C'est du côté matériel qu'il y a ça. Et pas du côté de l'intelligence. Ouverture. C'est l'ouverture. C'est l'ouverture de l'intelligence, de l'esprit, vers l'infini. Ça, c'est très important de voir qu'il y a une marque de l'infini de Dieu dans mon esprit. Alors, c'est une marque qui n'est pas actuelle, hein, vous comprenez bien, puisque c'est une ouverture, c'est une capacité. Une capacité d'aller toujours plus loin dans la recherche de la vérité, dans la recherche de l'amour. Je peux toujours aller plus loin. Ça explique, vous voyez, comment l'équilibre de notre vie ne peut pas se prendre du côté de notre conditionnement, mais seulement du côté de notre finalité. Alors ça montre toutes les limites d'un équilibre purement psychologique. L'équilibre psychologique est au niveau du conditionnement. Alors le conditionnement, c'est justement mes limites. Alors c'est un équilibre, tout simplement, d'harmonie. Et du côté de l'esprit, puisqu'il y a une ouverture vers l'infini, mon équilibre ne peut être que dans la mesure où j'atteins une fin. C'est-à-dire quand j'ai découvert la finalité vers laquelle je... L'équilibre de mon intelligence ne peut être que dans la contemplation de Dieu. L'équilibre de mon cœur ne peut être que dans l'amour d'amitié ou l'amour de Dieu. Ça, c'est très important, vous voyez, parce que ça fait tout de suite comprendre que tous les autres équilibres sont fallacieux. Il ne peut pas y avoir d'autre équilibre. Et ça fait comprendre comment l'homme a tellement de peine à découvrir une harmonie, une véritable harmonie. Comment l'animal le trouve naturellement et que l'homme, la plupart du temps, ne le découvre pas. Alors ça explique tous les refoulements. Ça, c'est le fondement des refoulements. C'est parce qu'il y a en moi quelque chose d'infini. Il n'y a pas de refoulement chez l'animal. Sauf quand il vit trop près de l'homme. Alors, chez les animaux domestiques, il y a des refoulements. En tant qu'ils sont domestiques. C'est pour ça qu'Aristote disait hier qu'ils étaient plus parfaits. N'est-ce pas ? Parce qu'en tant qu'ils sont domestiques, il peut y avoir des refoulements. En tant qu'ils sont dans le voisinage de l'homme. Et ça, c'est vrai. Vous trouvez des maladies particulières des animaux domestiques. Ce sont les seuls du reste qu'on peut soigner. Et tandis que les animaux sauvages, ils n'ont pas ce genre de maladie. C'est très curieux, ça. C'est parce qu'en homme, il y a des nostalgies. Le refoulement, c'est la seule manière de comprendre ce que Freud a dit. Il faudrait reprendre toute la théorie de Freud par ce point de vue de l'infini. Alors, par ce point de vue de l'infini, on comprend. Parce que chaque étape demande d'être dépassée. Si l'étape n'est pas dépassée, vous êtes dans un refoulement. Vous devez tout le temps aller plus loin. C'est fatigant. comprends très bien qu'on s'arrête à un coup, puisque même le prophète s'est arrêté en disant « Je ne suis pas meilleur que les autres hommes, Seigneur, hein, j'ai envie de m'arrêter. » Il s'est arrêté, parce qu'il n'a pas voulu aller plus loin dans sa marche. La marche de l'intelligence, la marche de la volonté, demande de s'ouvrir vers l'infini. Et on peut se reposer qu'en Dieu, on peut se reposer qu'en Dieu, alors celui qui ne l'a pas découvert, vous voyez, on ne peut se reposer qu'en Dieu du côté de l'intelligence. Vous ne pouvez pas vous reposer en dehors de Dieu, non, du côté de l'intelligence. Et du côté du cœur, vous pouvez vous reposer dans l'ami, mais ce n'est qu'un repos partiel qui demande en définitive de découvrir Dieu. Alors, Dieu, comme nous ne l'atteignons pas effectivement sur la terre, qu'on ne l'atteint qu'intentionnellement, on comprend comment il peut y avoir tous les erzas qui vont expliquer les refoulements. On va vouloir se reposer en autre chose que Dieu. Et alors, vouloir se reposer en autre chose que Dieu, c'est justement quelque chose qui n'est pas quelque chose qui me met dans la vérité. Je me repose dans des choses secondaires, la jouissance sensible, la jouissance esthétique. Je me repose dans l'argent, je me repose dans l'agitation. Il y a des gens qui se reposent dans l'agitation, n'est-ce pas ? Alors je me repose dans l'agitation, c'est un repos factice. C'est très important de comprendre que l'homme a en lui un gouffre. C'est un gouffre. Il y a une béance en lui. C'est du côté de l'intelligence et du côté de la volonté. Il est illimité du côté de l'intelligence et de la volonté. Alors voyez, ça c'est la réponse à Feuerbach. Feuerbach dira, l'homme est infini du côté de son intelligence et de sa volonté, et c'est pour ça que Dieu n'existe pas. Et nous dirons, l'homme est infini dans son intelligence et sa volonté, mais il est limité dans son être, et c'est pour ça que Dieu existe. Vous voyez, c'est parce que Feuerbach confond l'infini de l'intentionnalité avec l'infini ontologique. L'infini de l'intentionnalité, c'est l'intelligence et la volonté. C'est sûr. Si je confonds cet infini de l'intelligence et de la volonté, donc l'infini de l'intentionnalité, avec l'infini de l'être, évidemment, il n'y a plus de place pour Dieu. Il n'y a plus de place pour Dieu à l'hôtellerie. Impossible. Puisque mon infini intentionnel prend tout. Donc il n'y a plus de place pour Dieu. C'est moi qui suis Dieu. C'est moi qui suis Dieu dans mon infini d'intelligence et de volonté. Mais si je comprends que cet infini est uniquement au niveau d'intentionnalité, qui n'est pas réel, alors à ce moment-là, je montre au contraire que dans mon être, je suis limité, laissé participer, et que laissé participer peut impliquer un infini du côté de la vie spirituelle. Alors c'est là, vous voyez, où c'est très important de regarder ça. C'est là où vous comprenez cette parole si particulière qu'a dit Maître Eckhart. Alors, comme Maître Eckhart a joué un très grand rôle sur Heidegger, c'est quand même intéressant de regarder ça. Maître Eckhart a dit, en commentant la Genèse, Maître Eckhart a dit, la vie n'est pas créée. À première vue, ça peut vous sembler un scandale. Et on comprend très bien qu'on est condamné, Maître Eckhart. Hein. C'est dangereux de dire ça, la vie n'est pas créée. Il a dit ça avant Feuerbach. Mais la différence, c'est que Maître Eckhart disait la vie, et Feuerbach confond la vie et l'être. Il n'y a qu'une toute petite différence, vous voyez. entre les deux, entre Maître Eckhart et Feuerbach. Maître Eckhart dit la vie n'est pas créée. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que la participation de la vie n'implique pas de limites. Parce que mon intelligence, c'est une vie participée. Mon intelligence est participée. Elle n'est pas première. Je ne subsiste pas dans mon intelligence. Je ne subsiste pas dans mon amour. Et donc, mon intelligence et mon amour sont participés. C'est très vrai. Ils sont seconds. Ils ne sont pas premiers. Et mon intelligence et ma volonté, tout en étant participés, sont infinis. Et c'est pour ça que Maître Eckhart a raison de dire que la vie n'est pas créée, elle est participée. Seul être est créé. Seul être est limité en tant que créé. Tandis que la vie n'est pas créée, parce qu'autrement la vie serait limitée, il n'y aurait plus de liberté. Pour qu'il y ait liberté, il faut qu'il y ait un fond infini. Autrement, il n'y aurait pas de liberté. Il faut, pour qu'il y ait liberté, que l'intentionnalité soit infinie. C'est le fondement de la liberté, ça. Parce qu'il n'y a plus de limite. Qui dit infini dit sans limite, sans frontières. Et donc, c'est quelque chose qui permet de fonder la liberté. Et dès qu'il y a limite, il n'y a plus de liberté. C'est pour ça qu'on se heurte toujours contre les limites. Contre toute espèce de clôture. Parce que c'est une limite. Et qu'on veut être libre. Alors l'espace est confiné. Alors on ne veut pas ça. On veut briser ça. Parce qu'on a en nous, justement, cette soif d'infini. Ça fait comprendre, voyez, ces oppositions farouche que nous pouvons avoir vis-à-vis de quelque chose qui vient nous limiter dans un ordre où nous sentons qu'il faut être illimité. Le fondement de la liberté, c'est d'avoir en nous quelque chose d'infini. Tout être libre est infini. Ça fait comprendre, voyez, comment Descartes a fait ce lien. Il y a quelque chose de juste. La liberté se fonde sur l'infini. Mais je dis bien, la liberté se fonde sur l'infini. La liberté, c'est pas l'infini. Descartes bloque les deux. Et comme il n'y a plus l'être, alors on comprend très bien comment on arrive à identifier le point de vue de l'être et de l'infini, le point de vue de la liberté. Et qu'à ce moment-là, on ne peut plus distinguer le point de vue de Dieu et de la créature. Donc vous voyez, ce problème est très très important. Comprendre dans la lumière de l'infini de Dieu, l'infini que je porte en moi du côté de mon esprit. Parce que qui dit infini, dit une immanence sans fin. Forcément. Donc j'ai une immanence sans fin du côté de mon esprit, du côté de mon intelligence et de ma volonté. Je peux, au point de vue de l'immanence, arriver à aller toujours, toujours plus loin du développement de l'intelligence. D'où la possibilité d'une dialectique qui prend tout, dans l'immanence et dans le développement même de ma vie intellectuelle. Il y a un troisième problème qu'il faut regarder, et qui est aussi très important. C'est de voir qu'il y a un infini substantiel en puissance dans le problème de la matière. Ah, ça, c'est un jugement de sagesse sur la matière. Je vois que, et c'est peut-être pour ça que Dieu a créé la matière. Donc, on a une image de l'infini, une image de l'infini divin dans le point de vue de l'esprit, dans le point de vue de l'intelligence et de la volonté. Il y a une capacité d'aller toujours plus loin. Le développement intellectuel n'implique pas de limites. je peux considérer que l'homme, comme tout être corporel, implique la matière. Et la matière, d'une certaine manière, est infinie. Elle est un infini substantiel. Parce que c'est un infini radical. Mais un infini en puissance. C'est pour ça que c'est le vestige de l'infini de Dieu. Il y a l'image de l'infini et le vestige de l'infini. La matière comme telle, la matière n'a pas de limite. En tant qu'elle est en puissance, hein, dès que la matière existe, elle est limitée. Mais comme il y a un devenir infini, alors là, c'est un point de vue très intéressant qui serait à confronter avec certaines données scientifiques d'aujourd'hui. Et ça serait très intéressant à voir. Mais quand les savants disent qu'ils peuvent mesurer le point de vue de l'énergie du monde, ou quand ils peuvent mesurer la durée du monde, ou en disant que nous pouvons arriver maintenant à voir le point de départ et le terme, qu'est-ce que ça veut dire au point de vue philosophique? Parce qu'au point de vue philosophique, hein, si je me place dans un point de vue philosophique, purement et simplement, dans une lumière de sagesse, dans une lumière de sagesse, je peux dire que la matière est une pure puissance qu'au principe substantiel de la forme. Et donc, c'est une pure puissance, une capacité sans limite au niveau du devenir, pas au niveau de l'être, hein. La matière n'est pas un coprincipe d'être, c'est un coprincipe du devenir. Dans l'ordre du devenir, la matière est une source radicale qui n'a pas de limite. Donc, elle est infinie en puissance. Le devenir ne peut jamais épuiser la matière. Hein, c'est ça qu'il faut saisir. Le devenir ne peut jamais épuiser la matière, qui est pure puissance. Alors, si le devenir ne peut jamais épuiser la matière, il y aura donc dans la matière comme un vestige de l'infini de Dieu. Et c'est peut-être pour cela, vous voyez, là, toujours dans un jugement de sagesse, c'est peut-être pour cela que Dieu a créé la matière. Dieu a créé la matière pour donner un vestige de sa manière d'exister. C'est assez normal. À travers la création, il faut qu'il y ait un vestige. La marque. Vestige, ça veut dire ça. C'est la différence entre l'image. L'image et le vestige, comme font la distinction des pères de l'Église. Alors c'est un vestige comme une marque. Le vestige, c'est la marque. Vous voyez, quand un animal passe sur la neige, hein, vous reconnaissez tout de suite la trace. C'est le vestige, je ne dirais pas que c'est l'image de l'animal. Vous avez tout de suite une petite souris. Quand, dans l'écriture, quand vous voyez dans le livre de Daniel, n'est-ce pas, pour voir ces faux prophètes qui prétendaient que le serpent était un dieu et pouvant dévorer, alors le prophète Daniel met du sable sans que personne ne le voie, pour voir les traces de pas. La trace des prêtres qui, pendant la nuit, venaient manger à la place du serpent. C'est extraordinaire. Alors, on dévorait tout ce qui était donné et prétendait que c'était le serpent qui avait été dévoré. Donc, il était divin, puisqu'il était vivant, et il dévorait tout ce qu'on venait donner. Alors, la trace. C'est ça la trace. C'est pas l'image. Le vestige, c'est la trace. La trace de Dieu, la signature du Dieu, infini dans son être, c'est la matière. Les anges n'ont pas ce privilège. Nous avons un privilège que les anges n'ont pas, c'est que nous avons le vestige de Dieu, la trace de Dieu, par notre corps, par notre matière. Et c'est pour ça que la matière ne peut pas être abandonnée et qu'il faut la résurrection des corps. Alors, dans la résurrection des corps, on verra le vestige glorieux de Dieu dans la matière. Et on verra comment la matière, elle est vraiment le vestige de l'infini de Dieu. C'est extraordinaire, du reste, quand on essaie de comprendre comment la matière est vestige de l'infini de Dieu. Les anges, eux, ont une vie spirituelle plus pure. Alors, ils sont davantage image de l'infini de Dieu au niveau de leur vie spirituelle. Mais ils n'ont pas ce vestige au niveau substantiel. C'est la marque substantielle de l'infini de Dieu. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles.